Et ce matin, dans le 8h30, nous allons parler de parentalité, d'accompagnement des parents avec nos deux invités. Alexandra Montoya, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes animatrice départementale au sein du REAP des Alpes de Provence. Le REAP, c'est le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Et à vos côtés, Aurélie Bratouef, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue au sein de la maison des adolescents. Tout d'abord, en quelques mots, le REAP, quel est son rôle? C'est un rôle de prévention, de décharge? Expliquez-moi un petit peu.
Oui. Alors, le REAP prend appui sur un réseau de parents, un réseau de bénévoles et de professionnels qui permettent la mise en place d'actions visant à conforter, à travers le dialogue et l'échange, avant tout, les compétences des parents. Et ces actions, elles s'appuient sur un cadre bienveillant pour aider les parents, finalement, à redéfinir, réfléchir leur rôle éducatif, réfléchir sur leur rôle et leur posture de parents, parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours simple d'être de parents dans notre société.
Et voilà, justement, on va revenir. Oui, on va revenir sur la fonction de parent en 2023. Je voudrais juste revenir sur un mot que vous avez employé. Vous parlez de compétence d'être parent. Et ça revient souvent à ce que des parents ont pu entendre, c'est qu'on ne naît pas parent, on le devient.
Tout à fait, on devient parent. Et moi, j'aime bien aussi l'adage « il faut tout un village pour soutenir et élever un enfant ». C'est un adage qui colle bien, je pense, aussi aux valeurs du REAP, du réseau d'écoute et d'accompagnement des parents, puisque c'est l'idée aussi de mettre autour de la table tout un tas de nombreux professionnels du secteur, du champ du social, du médical, de l'éducation, de la jeunesse, du handicap, pour s'accorder sur nos postures, en tout cas le meilleur moyen finalement d'accompagner aujourd'hui les parents, de soutenir les parents, comment ça marche, comment on fait pour soutenir les parents aujourd'hui vis-à-vis de ce qu'ils vivent au quotidien, comment ensemble, entre acteurs, on peut aussi partager des ressources, des outils, des réflexions, s'accorder en tout cas sur notre manière aussi en tant qu'accompagnant de soutenir la relation parent-enfant et de soutenir les parents aujourd'hui.
Il y a un an en arrière, justement, la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence mettait en avant le fait qu'il n'y avait jamais eu autant de violences intrafamiliales dans le département que notamment depuis le confinement. Est-ce que la difficulté d'être parent aujourd'hui, en 2023, est beaucoup plus prégnante qu'il y a des années en arrière, notamment à cause du confinement? Et est-ce que ça pourrait expliquer notamment ces violences intrafamiliales? Alors, je ne sais pas qui peut répondre, si c'est Alexandra Montoya ou Aurélie Bratouef, la psychologue.
Voilà. Alors, en fait, c'est vrai que il y a eu énormément de changements ces dernières années. La parentalité du 21e siècle n'est plus la même. Le rôle du père, de la mère, l'évolution de la psychologie, la convention des droits de l'enfant aussi, la montée de l'individualisme, l'apparition des réseaux sociaux. Tout ça génère de nouvelles injonctions et des pressions sur les parents, avec le fameux parent parfait que chacun aimerait devenir. C'est vrai en plus qu'il y a beaucoup de livres sur l'éducation qui sont parfois dévorés sans modération par les parents. Ils viennent avec leur lot d'injonctions contradictoires et parfois les parents veulent suivre ces manuels à la lettre et finissent par s'y perdre. Voilà. Et donc c'est vrai que par exemple au niveau des sanctions, les parents n'osent plus sanctionner, par exemple.
Ces fameuses fessées, on n'ose plus donner de fessées.
En fait, le problème de la pédagogie positive mal comprise. L'idée de la pédagogie positive, c'est de promouvoir le positif et d'éviter de ne voir que le négatif. Mais cette pédagogie positive a viré en des recettes toutes faites, toute punition. Mais éduquer sans humilier ou sans porter atteinte à l'intégrité psychique de l'enfant, c'est évident. Mais il faut éviter de punir n'importe quoi, n'importe comment. Donc après, il y a vraiment une balance à faire et pas de foncer droit dans prendre les choses au pied de la lettre. C'est ça qui est compliqué, de trouver le juste milieu. Après, c'est vrai que la parentalité du 21e siècle est aussi différente avec tout ce qui est les réseaux sociaux. Il faut savoir que près de 80% des parents aujourd'hui vont chercher des réponses sur les réseaux sociaux. Donc on trouve parfois de très bons conseils, mais aussi on se retrouve face à des comptes des influenceurs qui vous dépeignent une parentalité qui sent la rose et des pétales fraîches, hein, et d'autres qui vous expliquent à quel point c'est ingrat d'être parent. Ouais. Donc tout ça, voilà, les parents sont perdus. Et par rapport au numérique aussi, on peut faire la balance avec les enfants de leur côté qui, eux, se trouvent dans un monde qui va de plus en plus vite, où en fait, ils peuvent trouver une réponse à une question en moins de 10 secondes avec OK Google. Voilà. Et toute cette manière de penser qui va de plus en plus vite, ouais. Les relations sociales se tissent différemment.
Ouais. J'aimerais juste revenir sur l'éducation. Alors, l'éducation positive ou la parentalité positive. C'est vrai que, en tant que maman, j'en ai beaucoup entendu parler. Sauf que, au final, on se demande si c'est vraiment rassurant pour l'enfant. Je m'explique parce que souvent la parentalité positive, et vous parliez des influenceurs ou influenceuses, on parle de limites. Et donc, on explique que moins l'enfant aura de limites, et ben moins il ira les tester justement, et plus il évoluera dans un cadre un peu plus souple et un peu plus zen. Sauf que j'ai souvent entendu dire, oui, mais des limites, ça rassure aussi un enfant.
Tout à fait, exactement. En fait, un enfant roi, c'est un enfant qui est plein d'angoisse, insécure, insécurisé. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, certains parents n'osent pas dire non en focalisant sur cette parentalité positive, alors qu'en fait, voilà, l'enfant a besoin de limites et ça le rassure, ça le construit. Après, il y a limites et limites, toujours en fait, c'est-à-dire qu'il y a un cadre à donner, un cadre rassurant, contenant, et après, dans ce cadre, effectivement, il faut que l'enfant ait une certaine liberté pour découvrir les choses et se développer. Mais un cadre de base est quand même nécessaire.
Justement, je parlais hier matin de la natalité qui n'a jamais été aussi basse en France depuis 1994. Mais on sait aussi que c'est quand on est optimiste qu'on a envie de devenir parent. Est-ce que là, il faut y voir une forme de pessimisme ambiant ?
Alors oui, de pessimisme, malheureusement, j'aime pas parler de pessimiste, hein, parce que je préfère être dans le positif. Oui. Mais c'est vrai que par rapport aux difficultés d'être parent en 2023, la question que vous aviez au départ, on trouve aussi les enjeux écologiques. C'est vrai que malheureusement, je dis ça malheureusement, c'est peut-être moi qui parle à ce moment-là, mais il y a certains parents qui font le choix aujourd'hui de ne pas avoir d'enfants par rapport à ces enjeux écologiques. Et à cet avenir qui est incertain et qui peut faire peur. Et c'est vrai qu'il faut à la fois accompagner les enfants de nouvelles habitudes pour rassurer et pour avoir les bons gestes dès le début, mais sans forcément créer d'angoisse par rapport aux urgences écologiques, etc. Mais c'est compliqué de trouver encore une fois hein, ce juste milieu. Et c'est pour ça voilà qu'il existe des associations comme le REAP qui sont là pour vraiment accompagner, informer les parents et les déculpabiliser aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui culpabilisent.
Oui, et justement, vous parliez de cette forme de parent parfait, qu'il faut être parent parfait dès la naissance de l'enfant. Oui. Sauf que de toute façon, c'est impossible. On ne peut pas être parent parfait. D'ailleurs, il n'y a pas d'enfant parfait non plus. Hein.
Non, il n'y a pas d'enfant parfait, il n'y a pas de parent parfait. Et c'est ça finalement qui est important peut-être de retenir, c'est cette importance de prendre du recul sur notre manière d'être parent. C'est qu'on vit tous finalement en tant que parents un peu les mêmes choses, on est tous dans le même bateau. Et je crois que c'est hyper important qu'il y ait des espaces d'échange sur tous les territoires, que les parents puissent échanger entre eux, se rendre compte qu'on vit ensemble tous la même chose et qu'on va aussi chercher nos propres solutions, qu'il n'y a pas de recette toute faite, on n'a pas encore trouvé la recette toute faite et que chacun se la fabrique avec ses propres ingrédients et sa propre identification aussi. Quoi. Je veux dire, c'est ensemble qu'on se rassure et c'est aussi l'un des objectifs du réseau des parents, c'est de venir réassurer les parents en organisant des temps d'échange et d'informations et d'appui entre PAIR.
Oui, voilà, exactement. Mais les pères sont aussi les bienvenus et ils ont toute leur place dans la parentalité, de plus en plus, d'ailleurs, aujourd'hui. Et il y a aussi un domaine, un terme que vous utilisez au sein du réhab, c'est la charge mentale. On en parle beaucoup de la charge mentale de la mère, mais aussi du père aujourd'hui. Le burn-out parental, est-ce qu'il existe ?
Alors oui, il existe. D'ailleurs, aujourd'hui, on estime qu'environ 5% des parents souffrent d'un burn-out parental, écrasé justement, comme on disait, par la pression d'avoir un enfant heureux à tout prix, alors que le but, voilà, c'est vraiment d'accompagner l'enfant dans son épanouissement et dans son développement. Alors, le burn-out, c'est vrai que avant de parler des facteurs, il est peut-être important de refaire le point sur ce que c'est. Ça se manifeste de trois manières, le burn-out parental. Il y a d'abord un épuisement physique et émotionnel, c'est-à-dire une absence quasi totale d'énergie émotionnelle qui se répercute sur la vitalité physique de l'individu. Ensuite, ça se manifeste par un désengagement affectif. Donc, le parent dresse des barrières émotionnelles entre lui et les personnes qui sont trop consommatrices de ressources personnelles, d'où une distanciation. Et ensuite, ça se manifeste par la perte du sentiment d'efficacité parentale. Le parent renie les accomplissements passés, présents et futurs, la qualité de son travail. Tout ça, en fait, mis bout à bout, le parent va être épuisé émotionnellement et physiquement dans son rôle de père et de mère, puisqu'il y a à la fois, effectivement, il y a beaucoup de mères, mais il y a aussi des papas. Donc, ces parents finissent par se distancier de leurs enfants, par perdre le plaisir de partager du temps ou des activités avec eux. Voilà, ils subissent tout ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les facteurs de risque vis-à-vis du burn-out. Il y a 5 grandes catégories. Quatre catégories. En fait, tout ce qui est facteurs sociodémographiques, donc par exemple avoir des enfants en bas âge ou même des adolescents, ça augmente le risque de burn-out. Les facteurs situationnels, par exemple avoir un enfant malade. Tout ce qui est aussi caractéristiques personnelles du parent. Souvent, quand un parent a un idéal parental élevé, il va se mettre une pression plus importante, du coup, il va y avoir un risque plus important. Et en fait, tout ce qui est pratique éducative et les relations avec le conjoint. On voit que parfois, dans certaines familles, les exigences éducatives, ou en tout cas les modèles éducatifs, vont être différents dans le couple. Et parfois, les conjoints ne vont pas soutenir l'autre dans cette démarche. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de facteurs, après, plus peut-être un petit peu plus secondaires, on va dire, hein, mais qui sont aussi tout aussi importantes, tout ce qui est précarité, la pression financière aussi, tout ce qui est la pression sociétale pour les parents qui ne travaillent pas. Alors, on va attendre d'eux qu'un foyer soit impeccable, une pression pour participer à la vie productive. Voilà, il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre, les emplois du temps qui sont surchargés des enfants avec des activités extrascolaires. Il faut qu'ils fassent à la fois du sport, des arts plastiques,
qu'ils soient heureux.
Ouais. Enfin, voilà, il y a une pression très importante. Voilà.
Ouais. Oui, et du coup, alors, j'en reviendrai donc pour finir aux actions du Réhab 04. Les difficultés sont grandes quand on est parent. Elles ne sont pas à mettre de côté, en tout cas. Vous, le Réhab, aujourd'hui, vous proposez quoi comme accompagnement, comme atelier, comme action au plus près des parents dans le 04 ?
On propose, alors, sur Manosque, on a lancé une série de 6 rencontres pour les parents avec ce titre « Parents à hauteur d'enfant ». On a démarré une première rencontre la semaine dernière autour d'un film documentaire « L'arbre de l'enfance » réalisé par Anne Barthes. En tout cas, on va chercher différentes modalités, différentes activités pour permettre aux parents de se livrer et de parler de ce qu'ils vivent au quotidien, et on va permettre d'utiliser différents supports qui soient ludiques, réflexifs, qui va aussi venir nourrir la relation parent-enfant. Donc voilà, sur Manosque, à partir de il y a à peu près une rencontre par mois avec des temps que pour les parents, des temps parents-enfants, moi ce que j'appelle un peu des parenthèses enchantées, où on vient vraiment vivre entre parents, enfants et même avec des ados, hein, une autre manière d'être ensemble, voilà, de construire quelque chose de différent à travers des parenthèses et des bulles enchantées. Et je crois que le réhab, c'est ça aussi, c'est offrir aux parents d'autres sortir de leur bulle, voilà, aller à la rencontre d'autres parents et se réassurer aussi ensemble et puis de vivre des beaux moments aussi en famille, quoi, sans jugement.
Voilà,
sans tomber dans des stéréotypes du parent bon ou mauvais. Enfin, voilà, en étant vraiment dans quelque chose, dans un cadre, en assurant un cadre bienveillant dans tous les cas. Et c'est aussi là-dessus que se retrouvent tous les professionnels qui intègrent ce réseau des parents.
Voilà, de la bienveillance. On ferme les réseaux sociaux, on ferme la page YouTube de l'influenceur, on ferme son livre également. Et on n'hésite pas à aller voir le Réhab 04 en cas de difficulté ou même simplement sans difficulté. Pour écouter ou partager, ne pas hésiter. Merci beaucoup Alexandra Montoya d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Aurélie Bratoev d'avoir parlé de tout cela avec nous, de la parentalité. Peut-être un numéro pour des parents qui auraient besoin de décharger justement.
Alors, vous pouvez appeler donc le RIAP hein, au 04 92 30 58 54 pour se tenir informé au courant de toutes les activités qui sont proposées. Il y a aussi une page Facebook, il y a aussi un site internet, hein, RIAP, RE2AP 04. .fr, hein. Vous tapez sur Google parent04.fr, vous tombez sur le site du RIAP et là vous avez toutes les activités, tous les professionnels aussi qui sont référencés dans le réseau pour que les parents voilà sentent qu'ils ne sont pas seuls. En tout cas, les parents ne sont pas seuls. Il y a beaucoup de professionnels qui sont à leur côté pour les accompagner au quotidien.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce matin.